RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
L'émission en français avec Inès Azagra et Guillermo Brown.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue un jour de plus à l'émission en français sur Radio Extérieure d'Espagne. Rebonjour à tous et à toutes, c'est la demi-heure de l'émission en français qui commence, on y va.
Les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville, toi t'es arrivée toute timide.
On écoute les bruits de la ville de l'artiste voyou, featuring Diel Guillet. Ça te fait penser à quoi, les bruits de la ville?
Ben, je pense au bruit des klaxons et des voitures. Dans les grandes villes, c'est malheureusement le son.
C'est dommage quand même, il y a le printemps qui commence maintenant.
Ben oui, oui, et à toi, ça te fait penser à quoi?
Beaucoup de choses, les papillons, les avec bourdin. Mais non, écoute, l'invité d'aujourd'hui a nous dire quelque chose sur ce sujet, mais c'est tout le contraire, c'est le silence.
La plupart des sons ont été déplacés. C'est-à-dire que lorsqu'un son me paraissait avoir une intensité ou un effet plus intéressant sur telle ou telle scène, je le déplaçais. La plupart des sons ont été déplacés. C'est-à-dire que lorsqu'un son me paraissait avoir une intensité ou un effet plus intéressant sur telle ou telle scène, je le déplaçais.
Comme un marin sur une plage, déposé là par une vague.
Je vous prive pour l'instant de l'interview que vous pourrez écouter après le journal de l'actu. Au fait, cet extrait sonore correspond au réalisateur français Floréal Pelleato qui nous a visité il y a quelques semaines pour nous parler de son long métrage La Main Bleue, un film où le réalisateur cherche à devenir l'ombre de l'artiste Mathieu Sodor qui se trouve en pleine phase de création et de mystère.
Ce dont je rêvais, c'était d'entrer en harmonie avec l'artiste et d'assister à l'émergence de son travail sans qu'il ait de ma part une manière un peu autoritaire d'imposer notre présence. Il fallait donc beaucoup de patience, d'écoute, de respect, bien sûr. Mais au-delà de ça, ce que j'attendais, c'était ça. C'était que par-delà ce silence, eh bien, on assiste un peu on assiste vraiment à ce mystère de la création.
On reviendra sur ce mystère de la création en quelques minutes avec Inès et l'invité du jour, Floréal Pelleato. Après le journal de l'actu, dans lequel nous commémorons aujourd'hui le 100e anniversaire de Telefónica, la plus grande entreprise de télécommunications de l'Espagne, avec un petit reportage sur les moments qui ont marqué son histoire. À la technique, Monsieur Morello, et au micro et dans vos oreilles, Inés Azagra et Riel Morabo. À la production, comme toujours, Cristina Dorado.
Allez, on y va.
Passons au journal de l'actu sur Radio Extérieure Espagne.
Où que vous soyez.
En Espagne, le début de cette semaine a été marqué par les résultats des élections régionales au Pays Basque, dans lesquelles le parti héritier de la branche politique de l'ETA a été le principal vainqueur.
Euskal Herria Bildu a protagonisé la plus grande progression dans le Parlement basque avec 27 sièges obtenus, 6 de plus que dans les élections de 2020. Le candidat Peio Otxandiano se montrait satisfait du résultat. Il affirme que ce dernier témoigne de la volonté de changement dans la région.
El salto político que ha dado la izquierda soberanista es espectacular. Casi 100.000 votos. Hemos ganado.
27 est aussi le nombre de sièges obtenus par le Parti nationaliste basque, formation souverainiste de droite, qui a gouverné pendant toutes les législatures depuis l'arrivée de la démocratie. Malgré avoir dépassé Bildu en nombre de votes, ils ont obtenu le même nombre de sièges. Cependant, ce chiffre leur permettra de rééditer leur coalition au gouvernement avec le Parti socialiste et le candidat Imanol Pradales a qualifié ce résultat de succès.
Como ganadores de las elecciones, trataré de conformar un gobierno que esté formado por mujeres y hombres de solvencia contrastada. Deberán dar respuesta a los retos que enfrentará Euskadi.
Le parti socialiste est arrivé troisième avec 12 sièges obtenus. Avec les 27 des nationalistes basques, la coalition arrive aux 39, un de plus des nécessaires pour investir un lehendakari, le nom donné au chef de l'exécutif du gouvernement basque. Les socialistes gagnent 2 sièges et arrivent à former un gouvernement, d'où la valorisation positive de ce résultat. Le Parti populaire gagne 1 siège et monte ainsi jusqu'à 7 représentants, mais sans possibilité de conditionner la formation de gouvernement, tandis que Vox et Sumar obtiennent un siège chacun, évitant ainsi de perdre leur représentation dans ce Parlement régional.
Côté international, lundi matin, nous apprenions de la démission du chef de l'intelligence israélienne après avoir assumé la responsabilité pour les attaques du 7 octobre sur le sol israélien.
Le chef du renseignement militaire israélien, le général Aharon Aliva, a présenté sa démission en raison de sa responsabilité de commandement dans l'attaque sans précédent menée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël.
Dans le sport, ce dimanche était une journée intense pour le sport, avec le Classico dans le foot, le Grand Prix de Chine de Formule 1 et le début de l'Open de Madrid en tennis.
Dans le football, le Real Madrid s'est imposé au Football Club Barcelone dans le Classico par 3-2 dans le Santiago Bernabéu. Les Blancs mettent ainsi une différence de 11 points avec le deuxième du classement à seulement 6 matchs de la fin de la compétition qui semble décidée en faveur du Real.
Dans la Formule 1, le GP de Chine ne nous a pas beaucoup surpris. Max Verstappen a remporté la course et le podium a été complété par le Britannique Lando Norris et le Mexicain Checo Pérez. Les Espagnols n'ont pas pu briller et Sainz a terminé 5e derrière son coéquipier et Fernando Alonso n'a pas pu faire mieux que 7e après avoir classé 3e samedi.
Et hier a commencé le Mutua Madrid Open, la compétition de tennis la plus importante de la capitale, dans la Caja Mágica. Ce sera sûrement le dernier Open de Madrid pour Rafa Nadal qui débutera contre le jeune Darwin Blanc, âgé à peine de 16 ans. Carlos Alcaraz jouera son premier match demain.
Telefónica est la plus grande entreprise de télécommunications en Espagne, la quatrième plus grande d'Europe et la 13e dans le monde. Créée en 1924 en Espagne pendant la dictature de Miguel Primo de Rivera, elle a fêté ses 100 ans d'histoire ce vendredi 19 avril. Telefónica a été une pièce fondamentale dans l'histoire industrielle, économique et politique de ce dernier siècle en Espagne. Et l'évolution de son volume et de sa structure témoigne de la transformation de l'Espagne au cours de ce 20e siècle. Créée à Madrid sous le nom de Compañía Telefónica Nacional de España, son but était de concentrer les services de téléphonie nationaux et c'est pour cette raison que le gouvernement de Primo de Rivera lui octroie le droit d'exploitation monopolistique de ce service. Silvia Rodríguez est professeure d'histoire de l'Espagne au lycée San Isidro de Madrid.
C'est dans l'esprit de la modernisation que Primo de Rivera, en tant que dictateur, essaye à mettre en place à partir d'un moment intéressé à se rattraper dans l'économie, à lancer des travaux publics, à contrôler les monopoles sur des secteurs qu'il considère prioritaires, tels que les hydrocarbures, et que la Telefónica est faite en tant qu'entreprise. On essaye à ce moment, en 1925, faire une compagnie vraiment qui monopolisait toutes les télécommunications.
En 1945, sous la dictature de Francisco Franco, l'État espagnol achète presque le 80% de l'entreprise. L'Espagne maintiendra le contrôle sur cette dernière jusqu'en 1967. Cette année, une augmentation de capital est faite et la participation publique de l'État se dilue.
Dentro de un par de horas, quizás menos, la Compañía Telefónica Nacional de España va a poner en servicio dos nuevos números, el 094 y el 098.
La privatisation totale de la compagnie se complétera avec deux offres publiques d'actions. La première en 1995 sous le gouvernement du socialiste Felipe González et la deuxième en 1999 sous le gouvernement du conservateur José María Aznar. Telefónica est une compagnie dont l'histoire est très proche à celle de l'Espagne et elles avancent presque en parallèle. Le développement de l'une illustre celui de l'autre. Depuis sa privatisation, l'entreprise a beaucoup grandi et elle a développé une grande gamme de produits de téléphonie, télévision et Internet, créant des filiales industrielles et des filiales internationales.
La Compañía Telefónica Nacional de España ha llegado a un acuerdo con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Chile relativo a la explotación de circuitos telefónicos directos entre España.
Telefónica est une entreprise très importante et preuve de cela sont ses chiffres. Elle est présente dans plus de 20 pays européens et américains. Son activité génère, directe ou indirectement, 1,2 million de postes de travail. Sa rétribution fiscale s'élève jusqu'aux 10 000 millions d'euros et elle a un impact de 53 000 millions d'euros sur le PIB des pays dans lesquels elle opère. En termes de clients, Telefónica donne un service téléphonique ou mobile à 315 millions de personnes dans tout le monde.
Hoy en Zaragoza, los 635 aparatos instalados en cabinas públicas pertenecen a este nuevo modelo.
Malgré que l'État espagnol avait privatisé l'entreprise, une entrée récente du Holding National de Télécommunications de l'Arabie Saoudite, le STC, a provoqué que l'État espagnol décide de racheter une partie de la compagnie. C'est à la fin de 2023 que l'Espagne a acquis le 10% de Telefónica, rentrant à nouveau dans son conseil d'administration, comme mesure pour maintenir l'autonomie stratégique du pays, démontrant ainsi l'importance de ce type de compagnie pour la souveraineté de l'Espagne, justement lorsqu'on célèbre ses 100 ans d'histoire.
Radio Exterior de España.
Floreal Peleato nous accompagne aujourd'hui dans le studio 208 de la Casa de la Radio à Madrid. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, merci.
Merci d'avoir accepté notre invitation, encore une fois. Aujourd'hui, vous êtes venu en tant que réalisateur nous présenter le documentaire La Mano Azul, La Main Bleue. Un moyen métrage paru en 2009 où vous suivez le peintre et artiste français Mathieu Sodor qui habite à Lisbonne et qui a d'une certaine manière une obsession, écrit entre guillemets, un coup de foudre avec Los Cantas, mais surtout avec le geste et la voix, malgré le silence qui impère, impérant pendant toute la durée du film.
Alors je précise tout d'abord que ce n'est pas un moyen métrage, mais un long métrage de 70 minutes.
D'accord, c'est une bonne précision, merci. Donc la première question, comment vous êtes rencontrés, vous et Mathieu ?
Alors Mathieu et moi nous sommes rencontrés à Madrid parce que sa sœur était et toujours une amie. Donc au fil des années, j'ai eu l'occasion de connaître un peu son travail, puis d'aller à Lisbonne, de le voir à l'œuvre dans son studio, et j'ai tout de suite été séduit et par son attitude et par son travail et par le lieu, qui est cet ancien entrepôt de laine qui est un vieil entrepôt donc en pierre avec une voûte très belle, une sorte de bulle isolée du monde contemporain au pied de la cathédrale et au pied de l'Alfama à Lisbonne. Et je trouvais qu'il y avait un beau contraste entre l'artisanat de ce peintre, son attitude répétée, quotidienne, rituelle, ce bruit de la ville très près, et ce contraste entre la concentration, le calme apparent de l'artiste et tout ce qui bruit à l'intérieur, toute la passion qui le meut. Et quant au rapport au flamenco, c'est un aficionado de très longue date qui a assisté à d'innombrables concerts, qui a rencontré des artistes de flamenco, qui a réalisé beaucoup de tableaux inspirés par cette forme d'expression. Et là, son idée, c'était de réaliser une série d'une dizaine de tableaux de très grand format, qui sont des très gros plans, des close-up, mais en fait de cadrer la gorge et la bouche. Et lui est capable, comme certaines personnes sont capables de lire sur les lèvres, eh bien lui, il est capable de distinguer el palo, donc le type de chant, uniquement en voyant la tension de la gorge ou l'expression, la forme de la bouche. Donc ma proposition a été la suivante, c'était de le suivre de manière quotidienne au fil de l'évolution de la série. Alors bien sûr, je ne pouvais pas rester pendant un an à ses côtés, je suis resté environ 3 semaines. Et j'ai donc assisté à la gestation, à la création de 2 tableaux, d'une partie d'un troisième, mais qui me permettait et qui permettait par là même aux spectateurs d'assister au processus de création d'un artiste. Donc de saisir vraiment en direct comment émerge une œuvre à partir d'une attitude profondément artisanale. Les 2-3 premiers jours, ce que nous avons filmé n'avait pas de valeur, parce que ce que je voyais dans ce que j'avais filmé, c'était de l'attention.
Ça arrive, et c'est surtout très intime.
Mais oui, il se sentait observé, malgré la confiance mutuelle, il se sentait, voilà, avec la caméra parfois à 50 cm de lui, ce qui fait que j'ai été contraint de jeter tout simplement tout ce qui était filmé au cours des 2-3 premiers jours. Et uniquement à partir de là, lorsqu'il s'est senti vraiment en confiance, eh bien, il y a une forme d'abandon de sa part, grâce auquel moi-même j'ai pu être à l'écoute de son travail.
La conception de l'œuvre de Sodor, est-ce que ce sont ces premiers tableaux qui feront partie de cette grande série de Cantaores, ou c'est plutôt des derniers tableaux ? Quand est-ce que vous êtes arrivé au processus de création de cette série de tableaux ?
Je suis arrivé au début.
Au début. Donc on voit vraiment les premières toiles qu'il peint de cette série.
Oui, c'est ça. Même s'il avait déjà les boches, puisque c'est aussi un dessinateur, donc lorsqu'il a un travail de série, c'est un travail conceptuel, ce qui veut dire que ça requiert de sa part une vision d'ensemble. Même s'il y a une part de tâtonnement, on part sur un tableau, on le laisse à moitié fini, puis on en commence un autre. Néanmoins, j'ai suivi, c'est un peu le contrat en quelque sorte, passé entre lui et moi. Je ne savais pas si j'assisterais à la totalité de la création d'un tableau, mais c'était le risque et le pari à prendre. Et par chance, oui, j'ai pu assister à toute l'étape de création jusqu'au moment de la signature.
Ces peintures en grand format de Sodor, pour moi, c'est une opinion personnelle bien sûr, évoquent un cri énergétique, sans pudeur, ni timidité, vraiment en haut. Même si en même temps, il y a à peine de la musique. Il y a un grand silence qui impère pendant le film. Et je voudrais bien parler avec vous. Donc cette contraposition entre ce silence, le silence de l'atelier, vous venez de mentionner les bruits de la ville, qu'on n'écoute pas du tout. Et à la fois, ça évoque la musique, ça évoque Las Palmas, ça évoque Un Tablao. Et à la fois, il y a un silence pendant tout le film. J'aimerais bien que vous nous parliez de cette contraposition.
Alors, en réalité, il n'y a pas de silence. C'est un silence habité. Puisque dès la toute première scène, le studio est plongé dans l'obscurité avant qu'il n'arrive. Et on entend déjà des mouettes. Donc c'est une manière par le son de créer une ambiance esthétique, une ambiance affective. Et aussi de donner une piste au spectateur. C'est-à-dire qu'il est dans un lieu qui est certainement proche de la mer ou de l'océan. C'est le cas puisqu'on est à Lisbonne. Mais on ne verra pas au bien plus tard les mouettes. Tout au long du film, il y a un travail de reconstruction du son. C'est-à-dire que dans le film, tous les sons qui sont employés, à l'exception d'un seul son, je ne dirai pas lequel, tous les sons sont des sons qui ont été enregistrés pendant le tournage.
C'est pas du bruitage.
Non. Ceci dit, la plupart des sons ont été déplacés. C'est-à-dire que lorsqu'un son me paraissait avoir une intensité ou un effet plus intéressant sur telle ou telle scène, je le déplaçais. Donc il y a tout un travail de montage du son, donc de reconstruction du son. Il y a de nombreux moments, il y a eu des surprises, comme lorsque nous sommes allés dans l'Alentejo, puisqu'il parlait souvent de l'Alentejo comme sorte comme source d'inspiration pour les couleurs, pour la matière. Et là on voit le lien, je crois, quand on voit le film, entre la texture des tableaux et puis le paysage de l'Alentejo. Lorsque nous sommes arrivés, par exemple, un matin très tôt et qu'il y avait des chasseurs et qui sont allés dans le petit bar du coin entonner des chants populaires, et donc j'avais demandé aux techniciens du son d'enregistrer tout ça donc pendant 3-4 heures environ, et il y avait une puissance non seulement musicale mais une puissance, en plus moi je ne parle pas portugais, je ne sais pas ce qu'ils disaient, mais c'était pas important. Ça me permettait de mettre en relation deux formes de puissance presque telluriques par le son, d'une part le flamenco, d'autre part l'enracinement portugais dans la lentège ou de ces chants populaires. Et ça c'est du prix sur le vif, puis comme souvent dans le documentaire, on ne sait pas ce que l'on va trouver. Moi j'avais un canevas de quelques pages, mais je n'avais pas proprement parlé de scénario, c'était impossible à planifier, c'était plus une réécriture au jour le jour.
Et la construction de plusieurs récits, montage, images. Et donc je trouve aussi qu'il y a beaucoup de moments d'intimité dans ce film, et on se demande, ou je me demande plutôt, à quoi Mathieu Sodor réfléchit quand il est en train de regarder une de ses toiles pendant des longues minutes. Et je voulais savoir comment étaient ces moments entre la toile, Mathieu, et vous, le technicien aussi, l'ingé son et le directeur de photographie, bien sûr. Mais ces moments de pause, on le regarde, et on voit ce certain regard, et on voit l'œil qui bouge et qui se déplace, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de... Qu'est-ce qu'il a dans la tête? On le voit avec la main aussi. Enfin, j'aimerais bien savoir comment étaient ces moments d'intimité et de ne pas obstaculiser ces moments si intenses de création.
Ce dont je rêvais, c'était d'entrer en harmonie avec l'artiste et d'assister à l'émergence de son travail sans qu'il y ait de ma part une manière un peu autoritaire d'imposer notre présence. Raison pour laquelle il y a dans le film une scène qui dure 8 minutes au cours de laquelle on le voit peindre. Et il n'y a ni musique additionnelle, ni voix off, ni interruption, ni apparition de visiteurs. Pendant 8 minutes, on a uniquement le contact du peintre face à la toile. Puis on a parfois tendance à voir l'artiste comme un artiste, comment dire, romantique, tourmenté, alors que le tourment, ou du moins la passion, peut être beaucoup moins extériorisé. Et dans ces moments-là, j'espère que nous avons été capables de ressentir, de faire partager aux spectateurs cette passion, mais une passion silencieuse. Dans ce regard entre le peintre qui regarde sa toile, j'ai essayé de faire partager ça, qui, me semble-t-il, on voit rarement à l'écran. Je souhaitais être là, présent, discret et en même temps ne pas louper l'opportunité de saisir ces moments-là. Et ça passait forcément par le silence. Même si dans le travail du silence, il y a aussi une reconstruction. Puisqu'en fait, j'ai un peu triché. mais c'est...
c'est normal. Vous êtes un réalisateur, c'est normal.
il a parfois tendance à travailler en musique. Et je lui dis, si on a des musiques très différentes, ça va être un enfer au montage. Mm-hmm. Je ne pourrais pas avoir une continuité sonore. Soit cela m'oblige à tout annuler comme son et à tout reconstruire au montage. Soit avoir des sautes sonores permanentes.
Oui.
Il me dit... Comme ça arrive parfois aussi de peindre en silence, ben je peindrai plutôt en silence.
Peindre en silence des gestes et des cris,
oui,
de Cantaore, c'est vraiment...
Oui. Bien sûr, bien sûr. Mais ce cri, c'est un cri... voilà, c'est un
anatomique,
cri...
Anatomique, c'est des peintures.
C'est un cri interne.
Oui.
Puisque comment la peinture, là je ne parle même pas du cinéma, mais comment la peinture peut-elle exprimer la tension vocale d'un artiste flamenco. Mm. C'était son pari. Et mon pari, c'était de... comprendre et de faire ressentir son pari.
Donc Mathieu Sodor ne se trouve pas toujours à l'atelier, il y a aussi des petits éclats de quotidianité, mmh. Et je voulais savoir comment vous avez choisi de filmer plutôt une vie quotidienne, un repas entre amis, une visite, comment ça s'est passé?
Comme j'ai perçu assez vite que sa vie est une vie très ritualisée, comme mmh. beaucoup d'artistes, avec ce qu'il faut de répétition, de routine... et de plaisir dans cette routine, je lui ai demandé, et j'ai demandé par son biais à ses amis, à son fils, qui était tout petit à l'époque, qui avait 6 ans, Miguel, s'il m'autorisait à les filmer. Bon, par chance, il a accepté. Ça n'a pas été immédiat. Hein. Il a accepté lorsqu'au bout de quelques jours, il a vu que mon attitude était une attitude respectueuse.
Respectueuse.
Et à partir de là, voilà, j'ajoutais des scènes de la vie quotidienne au cours desquelles on le voit aussi assis, regarder par une fenêtre, parler assez peu finalement. Et ça m'a frappé parce que je pensais qu'il serait beaucoup plus loquace, même avec ses amis ou avec sa famille. Et en fait, non. Donc il y a une part d'introspection. Et il m'a dit que quand il peint, ça lui arrive souvent, qu'on lui a même parfois reproché, que ses compagnes lui ont reproché d'être trop habité par son travail. Mais c'est souvent le propre de l'artiste qui... même quand il est avec les autres, il est tout seul avec lui-même. Et ça, je n'étais pas conscient de ça au moment où nous l'avons tourné. C'est quand j'ai visionné les images avec le monteur que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait presque en permanence cette attitude d'introspection.
D'artiste, de
ouais.
peintre.
Ouais.
Mmh, tout à fait.
Et qui n'est pas du tout une pause, hein, mmh. puisque je le filme dans ces moments quotidiens. Il n'y a pas de solennité, il n'y a pas de volonté d'ironie de ma part. Pas du tout.
Quelles étaient vos références filmiques au moment de tourner ce film? Est-ce que vous vous souvenez?
On m'a parfois posé la question. Je n'en avais pas réellement parce que je connais bien sûr un certain nombre de films documentaires consacrés à l'art et notamment à la peinture. Mais j'ai parfois eu l'impression que soit on idéalisait la figure de l'artiste, on l'encensait, soit on voulait au contraire... le déstabiliser, le déboulonner. Et j'avais un tout petit peu de mal à choisir des références. Je n'en ai pas vraiment eu, même si ça paraît peu crédible. C'est plus dans le choix de la couleur, de la lumière, des cadrages, que je me sentais plus en affinité avec certaines approches. Mais je n'avais pas de référence précise.
Référence précise au moment du tournage.
Non. Et ce qui est vrai, c'est qu'avec le chef opérateur, avec lequel je me suis très bien entendu. Et ce que nous avons recherché très vite, hein, avant de tourner, c'est de faire des repérages comme pour un film de long métrage de mmh. fiction, en fait.
Mmh.
Et de nous dire qu'est-ce qui va nous aider à transmettre ce que l'on veut. Nous avons prêté beaucoup, beaucoup d'attention au découpage de l'espace par la lumière, au travail de l'ombre.
Dans un atelier d'artiste... Bien évidemment. Donc
de manière aussi à faire ressentir presque une présence que j'ai moi-même ressenti les premiers jours, comme s'il y avait là des fantômes, comme si les tableaux qui étaient posés contre les murs...
Ils habitaient l'espace d'une façon plus physique que
mais des fantômes accueillants, hein, pas quand je dis fantômes, ça n'a rien d'inquiétant, mais ils étaient là, et c'était une manière aussi de leur rendre hommage, même si certains ne les voient pas, puisqu'ils sont tournés vers...
font partie du casting.
Oui.
Faudra les mettre à la fin de crédit. Ce documentaire est disponible sur la plateforme VOD de Filmin, mais aussi comme nouveauté sur une chaîne dédiée exclusivement au flamenco.
Oui.
C'est bien ça?
Oui.
Comment elle s'appelle cette plateforme?
Le flamenco, ils se sont mis en contact avec moi récemment en me disant que ce film-là, même si le sujet principal, même si son axe était avant tout la peinture, il leur semblait que la manière d'approcher le flamenco méritait que le film fasse partie de leur programmation. Voilà comment...
Comment s'appelle la plateforme?
All Flamenco. All comme tout. All
Flamenco. D'accord. A-L-L Flamenco. Depuis 2009, il y a eu des projections lors de festivals dans des cinémathèques en France, en Espagne, Portugal, Chili, Colombie, Mexique, Japon. Après tant d'années, est-ce que vous avez revu votre film et est-ce que, avec cette perspective, vous trouvez des choses que vous changeriez?
Oui et non. C'est un piège de vouloir reprendre un travail qu'il faut mettre un terme. Voilà. Donc, le film est fait. J'étais obligé de le revoir, puisque lorsque j'ai dû faire, par exemple, un DCP, il fallait vérifier donc, certaines scènes, certaines transitions, donc pour des questions techniques, j'ai dû revoir certains moments. Ce qui m'a étonné quand je disais oui, c'est que certainement, mon rythme, mon tempo serait le même. Parce qu'il y a, pour tout réalisateur, il y a plusieurs éléments pour chacun d'entre nous que l'on ne peut pas changer. Sinon, de manière artificielle, et ce n'est pas très bon, c'est notre rythme. Une chose fondamentale au cinéma, c'est le rythme. C'est-à-dire que la phase d'écriture, elle apporte en quelque sorte la mélodie, le tournage, le rythme, et le montage, l'harmonie. Donc je crois de plus en plus, j'ai de plus en plus une conviction musicale, ou un rapport musical avec le cinéma. Et là, tout réalisateur, lorsqu'il se trouve en train de visionner son travail, se rend compte de quel est son tempo. Et on ne peut pas le changer. Donc, est-ce que je le referais pareil? Non, sans doute non. Mais je m'y retrouve. C'est-à-dire, je crois que les spectateurs apprécient ou pas le film, je crois qu'il me ressemble. Mm-hmm. Et ce qui est important, c'est ça. C'est que l'on fasse des films dans lesquels on puisse percevoir une authenticité de l'auteur.
Mm-hmm. Qu'avez-vous appris après avoir tourné ce documentaire? Comme dernière question, qu'est-ce que vous avez soulevé à ce moment-là? Après, ou peut-être des années après, peut-être à vous retrouver dans ces plans soutenus, peut-être à l'image.
La première chose que j'ai appris, c'est à quel point le documentaire est une excellente école d'écoute et d'humilité. Mmh. Et c'est une manière de s'accorder la possibilité d'accueillir l'inédit. La deuxième, c'est la rapidité que l'on doit acquérir pour filmer. Puisque, comme je l'indiquais, les scènes n'avaient lieu qu'une fois. Je ne pouvais pas demander au peintre de prendre son éponge, d'effacer la touche et de revenir. Non, c'est l'ici et maintenant. Et ça aussi, c'est un excellent apprentissage.
Une école, oui.
Parce que, il faut être l'essence aux aguets et saisir ce que la vie nous propose à un moment. Et quoi d'autre? C'est aussi à quel point cette manière de travailler peut enrichir la fiction. Puisque aussi j'ai des projets de fiction, mais il faut pas opposer la fiction et le documentaire, ni même parler comme s'ils sont aujourd'hui de la porosité, d'un film qui ne serait ni une chose ni l'autre. Non. Le documentaire peut enrichir la fiction dans la mesure où il y a une légèreté aussi des moyens. Donc la rapidité, la légèreté, accueillir l'inédit, tout ceci contribue à travailler la fiction de manière plus souple. Donc j'espère avoir appris ça grâce à ce tournage, à ce montage-là. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de plaisir à monter le film. Et pour moi, la plus grande surprise, c'était le montage du son. Autant le montage de l'image était très rapide, très très rapide.
Le son a été...
Mais j'ai passé presque plus de temps à monter le son qu'à monter l'image. Et ce qui était étonnant, c'est que le monteur vivait aux îles, aux Açores. J'étais à Madrid et que l'on travaillait à distance. Mais ça a été passionnant.
Ça, c'est beau, les ingés sons et le montage sonore.
Et j'espère que le spectateur ne sent pas le travail du son. Qu'il le ressent, mais qu'il ne peut pas l'analyser, sinon ce ne serait pas très réussi.
Je pense que c'est réussi, on ne sent pas du tout. Merci beaucoup Floréal Peleato. Donc, il faut le dire, La Main Bleue disponible sur la plateforme Filmin et maintenant sur la plateforme vidéo aussi All Flamenco. Merci.
Merci Inès, merci beaucoup.
Merci à Floréal Peleato et à l'équipe de l'émission en français, Guillet, Christina et Oliver. À bientôt.